M'appuyant sur une étude de cas ethnographiée, je vais développer la question de la distinction sociale repérée à travers un processus de guérison. Cette distinction est visible et exprimée à la fin de la cure par un rituel supplémentaire utilisé pour renforcer l'état de guérison donc, du patient. Ce rajout est clairement énoncé par le thérapeute pour montrer qu'il prend en considération le statut social de son patient. Donc, il renforce rituellement la césure entre l'avant et l'après, en faisant usage de modalités magico-religieuses spécifiques à la personne qu'il soigne. Par l'étude donc, du rituel de guérison engagé pour soigner une descendante d'un devin guérisseur réputé, il est question de discuter donc, de la guérison comme une expression et une production de distinction sociale. Et ça permet d'interroger les différentes expressions de guérison mobilisées en fonction de la reconnaissance sociale que l'on a de la personne soignée ou que l'on est en train de soigner. Alors donc, je vais décrire le contexte rituel de la thérapie et les différents éléments socialement agencés dans le temps et l'espace de soins et présenter donc le rituel qui renforce socialement la fin de la cure. Alors, le contexte ethnographique est le suivant. Donc, il s'agit d'un rituel observé au domicile d'un devin guérisseur confirmé qui a à peu près une soixantaine d'années, qui a été un informateur privilégié et qui réside donc dans une région rurale de Limerne, donc sur les hautes terres centrales de Madagascar, un petit peu au nord de la région Betsileo. Donc, ça, ce sont deux régions proches. Et qui abrite Tananarive. Alors, suite à une série d'observations que j'ai réalisées chez lui sur plusieurs années de terrain, cette cure avait retenu mon attention parce qu'en fait, elle comportait ces étapes rituelles supplémentaires au modèle type que j'avais l'habitude en fait d'observer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise juste que cet homme est un éleveur de zébus et un agriculteur très modeste, donc il vit dans un tout petit village en campagne. Et il a acquis donc son savoir et son pouvoir de guérison sur plusieurs décennies. Donc, il a commencé dans sa jeunesse par l'apprentissage donc des simples, et par la suite, il a acquis donc des savoirs dans le champ de la possession, la transe de possession, la divination et l'astrologie, qui sont des éléments fondateurs du savoir thérapeutique à Madagascar. Alors, le devin guérisseur, dans son sens large, suppose donc le savoir des plantes, l'utilisation de charmes de protection, charmes de guérison, charme de défense, mais aussi charme d'attaque. Donc, il y a tout un champ de sorcellerie qui s'applique au champ de la guérison. Et donc, il agit pour la collectivité, pour les individus, etc. Alors, le personnage du devin guérisseur, son autorité, en fait, s'inscrit donc, dans la tradition. Et il influe depuis toujours sur le politique, sur l'économique, sur le social et sur la thérapeutique. Donc, je précise une dernière chose. L'ensemble des étapes rituelles que j'ai observées se sont déroulées sur 1h30. Donc là, je vais faire une synthèse, une version très très réduite, ce qui est d'ailleurs un exercice un peu compliqué, un petit peu difficile. Donc j'ai tenté de garder les éléments qui montrent comment le devin guérisseur mobilise son savoir et son pouvoir donc, pour valoriser socialement la guérison. Donc j'ai dû mettre beaucoup d'éléments de côté. Les rituels sont réalisés le plus souvent donc, au domicile de ce devin guérisseur, et plus précisément dans la pièce principale, qui fait en fait office de salle à manger, de pièce de couchage le soir, de tout en fait. Donc si les personnes présentes au rituel sont nombreuses, Alors, il peut s'agir donc des familiers, d'assistants, de voisins, des enfants, de parents, etc. Et bien sûr, des patients qui viennent en général avec leur famille, donc ça peut faire beaucoup de monde. Une natte de grande taille est déployée sur le sol, comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi non une toute plus petite qui s'appelle Valamène, en clos rouge, et elle, celle-ci suffit. Alors, elle est posée au coin nord-est de la pièce, qui est la direction zodiacale privilégiée pour invoquer les esprits. Le nord-est est une direction fondamentale aussi dans le culte aux ancêtres. Donc, il faut considérer cette natte et son orientation comme un espace sacré, évidemment, témoignant de l'attention que l'on doit aux esprits. Chaque protagoniste du rituel thérapeutique occupe un emplacement réservé selon son statut et les correspondances astrologiques dont le respect favorise l'efficacité de l'action rituelle. J'ai fait un petit tableau pour que vous ayez au moins les noms, les mots vernaculaires. Donc le devin guérisseur, par exemple, lui, il se place au signe du bélier, à la Hamad, donc qui est le nord-est de la pièce, la direction privilégiée pour le champ religieux, le champ du sacré. Le consultant en direction du cancer, au sud-est, l'assistant à l'est, etc., etc., les invités au nord-ouest. Cet arrangement de l'espace rituel favorise l'entrée en transe, donc la communication avec les esprits. Il conditionne de même l'engagement de chacun des protagonistes, aussi l'invocation, la prière, et les gestes associés donnant de façon corollée ces dimensions à l'espace. Et puis, il témoigne surtout du positionnement social des participants. Donc la pièce devient, le temps du rituel, une sorte de terrain de jeu social, un lieu consacré, sanctifié et régi par des règles particulières, visant donc une action déterminée, ici la guérison. Alors, après avoir déroulé cette petite natte, le Valamène, le devin guérisseur pose toute une série d'objets de culte. Donc, ce sont par exemple, comme je disais, des charmes de guérison, des charmes de protection. On y voit des perles, des bois sacrés qui vont servir pour les recettes thérapeutiques, de l'eau, etc., etc., un coquillage, un aimant, voilà. Je passe les précisions sur ces objets. Et puis aussi, on y voit un miroir qui est un objet très important du rituel. Alors, quelques précisions maintenant sur la patiente. Donc, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui est considérée par le devin Gerson comme une parente, un membre de la famille, même s'ils n'ont pas de lien direct, et qui vient en fait d'un village proche de chez lui. Alors, malade depuis longtemps, son mari avait pris la décision de consulter ce devin guérisseur après des visites répétées chez le médecin. Sa maladie se caractérise par des pics de douleur situés en différentes parties du corps selon les périodes de rechute, et comme elle disait, la douleur se déplaçait. Lors du diagnostic établi par le devin guérisseur à la consultation donc précédente ce rituel, le mal se situait au niveau de l'abdomen. En utilisant le miroir, il avait diagnostiqué un cas de sorcellerie. Alors, pour ce rituel en particulier, l'assistance était nombreuse et un voisin du devin guérisseur qui est accordéoniste avait participé au rituel, donc il y joue des musiques de possession très caractéristiques et ça amplifie le caractère festif de la possession en fait. Donc lui, l'accordéoniste, est assis sur le lit en direction du destin astrologique vierge, donc voilà, il fait aussi partie donc, de ce jeu selon les directions zodiacales. Donc les autres participants, eux, sont assis à même le sol sur la natte. La patiente est accompagnée ce jour-là de son mari et de son petit garçon. Donc après l'aspersion du coin nord-est de Rome, le devin guérisseur invoque les esprits. Il met son collier de perles autour du cou. Sa femme lui apporte un gobelet qui servira à distribuer le rhum à tout le monde, enfin à toute la collectivité, assistants, malades, voisins, etc. L'invocation est adressée aux esprits, accompagnée par l'accordéon. Il asperge à plusieurs reprises encore le coin nord-est. Il prend son miroir et incline le faisceau lumineux sur les charmes de protection qu'on appelle faasiv en malgache. Il asperge à nouveau le coin nord-est, rajoute du rhum dans une petite bouteille qui contient du charme de protection et fait sa prière, son invocation. Un peu plus tard, il pose le bandeau rouge autour de sa tête, comme vous pouvez le voir. Il se met aussi un tissu de carré rouge sur la tête qui lui retombe sur les épaules. Il siffle, il reprend encore son miroir, il le fait tournoyer au-dessus des charmes de protection et de guérison. Il baisse sa tête quelques instants et la relève et demande aux gens de frapper dans leurs mains pour activer la venue de l'esprit. Après cette séquence, le devin guérisseur est possédé. Donc, il baisse là, il fait donc l'invocation des esprits. Il a encore son tissu sur la tête, etc. Par la suite, donc, il baisse ce carré de tissu sur les épaules. Il regarde son miroir. Qui a en fait pour fonction de vérifier, mitsar en malgache, ça veut dire vérifier, c'est-à-dire de diagnostiquer la maladie. L'esprit, selon lui, a la faculté de voir les choses sans intermédiaire, mais là, le miroir devient un outil thérapeutique. Le miroir porte aussi le nom de Tsinzur, donc regarder de loin, de haut et d'en bas. Il serait alors comme un outil d'observation pour le devin guérisseur qui regarde d'en bas vers le haut et pour l'esprit donc d'en haut vers le bas. Le possédé tient le miroir dans sa main gauche, agite aussi sa main droite et serre la main à tout le monde car en fait l'esprit salue tous les protagonistes du rituel. Alors la consultation commence et donc la patiente entre en jeu. Il lui donne un miroir, un deuxième miroir, afin de localiser le mal qui est logé au niveau de l'abdomen. Elle le place sur son ventre, puis sur les reins. Et en fait, le concept est de, si le miroir tient collé sur la peau de l'abdomen, alors son diagnostic est vérifié. Ça veut dire que le mal est bien logé là où le miroir tient. Alors, il explique à la patiente donc son procédé thérapeutique et relate les consultations passées. Donc, il y a une petite historique. Il lui dit qu'il n'avait pas fait auparavant de diagnostic approfondi avec le miroir, justement, et que les plantes données en ordonnance ne suffisaient pas. Il lui explique aussi que sa maladie a été provoquée par l'absorption d'un aliment qui était un acte de sorcellerie causé par un homme jaloux et amoureux, il y a déjà longtemps, à l'époque où elle était avec son ex-mari. Et il diagnostique que c'est de la viande de bœuf qui a rendu malade donc la femme. L'extraction donc de la viande est indispensable pour qu'elle guérisse. Voilà donc le devin guérisseur qui est en transe et qui salue les personnes qui assistent au rituel. Alors le thérapeute choisit quelques bois sacrés qu'il va administrer à la patiente afin de faciliter l'extraction des morceaux de viande. Donc là on le voit en train de gratter des bois qu'il a précédemment sélectionnés. Et il le transforme en poudre qu'il va mélanger à de l'eau, il va en faire des aspersions. La patiente va boire plusieurs fois des gorgées de ce remède, etc. Alors, il va chercher un plat, un balai et 7 allumettes pour combattre précisément le mauvais jour, le jour maléfique, celui où elle a été ensorcelée. Il se positionne à l'ouest d'elle, c'est-à-dire à la Chaos. Donc, ce sont deux jours qui s'opposent et il fait face au jour néfaste. Donc les gens continuent à frapper dans leurs mains et ceci encourage en fait le devin guérisseur. Donc il est en demande, en demande de musique. Il fait tourner plusieurs fois les allumettes, il fait tourner le balai autour d'elle, etc., etc. Et je passe un petit peu. Et donc, l'objectif est de supprimer ce jour néfaste par des formulations astrologiques. Alors ça dure un certain temps, peut-être à peu près 30 minutes, où il relate tous les jours de la semaine et tous les mois de l'année, etc., etc. Sont des formulations qui sont très complexes et qui mettent plusieurs années à être vraiment assimilées, etc. Par la suite, il fait donc boire le charme, ce charme de protection et ce charme thérapeutique qui dissout ou qui est censé dissoudre les morceaux de viande. Après cette préparation, le devin guérisseur fait des incisions au niveau de l'abdomen, là où le miroir avait été placé, et il aspire à plusieurs reprises le ventre. Il en sort, il en crache donc des bouts de viande, des morceaux de viande. Donc il crache dans ce fameux plat qu'il avait préalablement fait tourner autour de la patiente. Et il applique un cicatrisant sur l'incision. Donc la deuxième séquence commence à ce moment-là. Donc le rituel de guérison est fini. Et là, il annonce qu'il va procéder à un nouveau rituel ou une étape secondaire qu'il fait parce que sa patiente donc, a un statut particulier. Donc il l'annonce officiellement. Donc c'est une étape qui succède à la séance de guérison car elle est une descendante d'un devin guérisseur. Et de fait, il tient à être bien considéré par cette descendante et cette famille. Donc, il se prépare à réparer le destin par l'exercice de la parole. Et avant son éducation, il tourne autour de sa patiente et lui fait encore boire des remèdes. Ici, il fait toute une série d'incantations. Alors, la chose à retenir, c'est que dans sa formule conjuratoire, il utilise sa canne, qui est symbole de pouvoir et d'autorité. Donc ça, c'est une chose importante. Et de cette façon, en fait, il met en avant son savoir religieux, donc par le biais de la formule verbale et par le biais de certains objets symboliques, et qui renforce aussi sa posture. Alors l'incantation se termine par la déclaration de la guérison et par l'approbation en fait des participants au rituel. Il est question donc de la reconnaissance officielle de la guérison et de la réussite du combat qu'il a mené contre ce jour néfaste. Et là je cite quand même la fin. Je vais dire quelque chose et vous allez me répondre par dévasté. Est-ce dévasté? Les autres répondent oui, c'est dévasté. Est-ce guéri? Les autres répondent « Oui, c'est guéri ». Si vous trouvez qu'elle est guérie, on va se lever et dire ensemble « C'est guéri ». Il demande à sa patiente de se lever et de sortir de la pièce, action qui matérialise la réussite de la guérison. Il prend un verre de rhum et fait signe à la femme de revenir pour s'asseoir face à lui. Il demande le silence et fait lever l'assistance. Il leur demande s'il a réussi. Tout le monde approuve. Donc à présent, l'esprit veut partir, une fois que le rituel est terminé, l'esprit veut partir. Le mari de la patiente fait un discours très rapide pour le remercier. Le possédé salue à nouveau toutes les personnes de l'assistance pour dire au revoir. Et la transe de possession est terminée. Donc, l'étude de cas ici, elle met en évidence la guérison comme une expression donc, de distinction sociale, comme je le disais. Et les éléments constitutifs du rituel et la forme du discours rendent visible l'autorité du guérisseur et sa supériorité dans un contexte rituel. Les rituels de guérison s'adaptent au contexte social dans lequel ils s'inscrivent. Alors, les formules astrologiques et les compositions des charmes thérapeutiques suivent des règles précises qui amènent à une déclaration nette et précise de la guérison. Ainsi, le malade, Donc la malade, à la fin du rituel, a changé de statut. La deuxième séquence que j'ai ethnographiée est effectuée pour renforcer la cure de la patiente, mais aussi et surtout pour distinguer les devins guérisseurs, c'est-à-dire là lui-même et le père de la patiente, des gens ordinaires. Une différenciation sociale est opérée dans le processus de guérison ritualisée et qui marque le positionnement social de certains individus au travers le champ de la santé ou de la guérison. Donc dans ce contexte culturel, on voit que l'expression de la guérison est clairement ritualisée et annoncée verbalement. L'avant et l'après sont bien distingués et établis, le devin guérisseur proposant un rituel pour renforcer cet état de guérison. Alors si dans d'autres contextes cet état est nuancé, on l'a vu à plusieurs reprises depuis hier, ici le discours formule plus qu'un état de guérison. Il montre également l'état de puissance et de supériorité du thérapeute sur la maladie. Alors plusieurs étapes rituelles ont manifesté l'arrivée progressive de la guérison jusqu'à sa manifestation symbolique et sociale, visible par le discours qui est performateur. Cette ethnographie a montré également que le thérapeute se met en scène et valorise par la performance son savoir et ses savoir-faire religieux et aussi thérapeutiques. Et par les modalités rituelles, il a signifié une réinscription sociale de l'individu lorsqu'il est sorti de la période de maladie. Alors le temps de la consultation, qui est un temps rituel, implique que les acteurs soient inscrits dans un cadre non ordinaire, donc propice à la cure. J'ai insisté sur les directions zodiacales de l'espace thérapeutique pour signifier que la guérison s'inscrit bien dans un espace-temps, donc un processus qui induit des critères temporels et spatiaux. Donc la guérison, elle est aussi une inscription sociale où la cure est marquée par des relations, des interactions collectives. Alors il n'est pas question ici d'un face-à-face soignant-soigné, mais d'une implication communautaire, religieuse, où les esprits sont également intégrés au processus de guérison. Alors cette implication de différents acteurs met en évidence l'intentionnalité et la recherche de guérison. Alors pour finir, je reprends les propos de Marie Ménoret lors de son intervention hier matin, qui parlait de l'incertitude de la guérison dans le cas de la cancérologie. Et on voit bien que là, dans le cas qui nous intéresse ici, là, on est face vraiment à la situation inverse, puisqu'il s'agit en fait d'une approche sociale et qui révèle la certitude de la guérison.
Très bien, merci beaucoup. Donc on va passer aux questions. S'il y en a.
Je me demandais, c'est-à-dire après la guérison, est-ce qu'il y a un lien de reconnaissance que le malade établit avec le guérisseur?
Alors, il n'est pas. Alors, au préalable, avant le rituel, il est toujours demandé, il y a des objets rituels à apporter, comme le rhum, certains éléments, et puis il y a. Une somme, un tarif à payer qui est la plupart du temps symbolique. Donc il y a déjà ce geste-là qui est fait. Donc il y a déjà une interaction, une reconnaissance parce que la patiente paye le devin guérisseur. Oui, c'est déjà préétabli. Et la reconnaissance, la meilleure reconnaissance qui puisse se faire, c'est de confirmer la réputation du devin guérisseur. Et c'est en ce sens-là que le rituel est important pour le thérapeute. Voilà. Donc ça peut enclencher de nouvelles consultations, un nouveau réseau, une meilleure réputation, etc.
Et juste pour prolonger la question de madame, est-ce qu'il y a quand même de la fidélité de la part des patients, des malades qui viennent? Est-ce que par exemple elle reviendra une prochaine fois pour autre chose, ou est-ce que le devin a sa spécialité et puis on ne le consulte plus quand il s'agit d'autres types de maux?
Ça dépend des devins guérisseurs, effectivement, de leur spécialité. Et certains ont des savoir-faire très spécifiques Donc, ils sont connus pour certaines maladies, donc les gens ne les fréquentent pas. Alors, lui a un savoir assez large.
Donc, une patiente est susceptible de revenir,
oui,
en fait.
Oui, voilà. D'accord. Il est spécialiste dans les maladies infantiles, les maladies sexuellement transmissibles, hommes-femmes, les maladies, les cas de sorcellerie. Il a beaucoup de recettes de plantes, donc il est amené à...
Il
a consulté,
une mentale fidèle, quoi, disons.
Oui.
Oui, il y avait une question, Fatima. Il faut parler.
Oui, je vous remercie pour la communication, c'est très intéressant. Et question, comment le malade exprime et rend témoignage en fait de sa guérison au niveau corporel, au niveau des sensations, etc. Et comment il comprend sa guérison pour lui-même, comment il convaincu et comment il arrive à convaincre.
Comment il en parle?
Oui, alors je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas suivi l'itinéraire thérapeutique de la patiente.
Après oui. Le rituel.
Oui. Donc je ne connais pas son sentiment, je n'ai pas suivi son état de santé. Mmh. Voilà. Donc je ne sais pas si aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que pendant le rituel. Il est hors de question qu'elle puisse intervenir. Ça ne se fait pas, même si elle ne se sent pas du tout guérie. Donc effectivement, peut-être que ça n'a pas du tout fonctionné et qu'elle est allée voir, qu'elle est allée consulter d'autres thérapeutes, médecins ou pas, ou de vaguerisseurs. Mais je ne peux pas vous répondre. J'ai pas fait le suivi des thérapeutiques des patients.
D'accord. Oui.
Oui, merci beaucoup. Alors, ma question concerne les moments de la pratique de l'incision de la peau, l'aspiration et cracher, c'est lié bien. Est-ce que c'est lié à ce cas particulier de cette femme qui était ensorcelée puisqu'elle avait mangé de la viande et de l'eau empoisonnée, ou est-ce que ce guérisseur, il est spécialisé dans ça, est-ce qu'il incise souvent? Est-ce qu'on pourrait le considérer comme un chirurgien traditionnel? Et ça, c'est très intéressant, ça me fait rappeler du cas de Pachita, la guérisseuse mexicaine qui soignait dans les montagnes du Mexique. Et du coup, elle incisait, enlevait des organes, faisait matérialiser des organes en allant les chercher dans l'espace-temps. Et elle faisait des actes d'organes comme ça. Et donc, c'est assez intéressant de voir. Je m'intéresse aux chirurgiens, et donc la chirurgie traditionnelle, c'est pour moi très intéressant. Donc, ils les pratiquent souvent. Et,
oui.
Et comment est-ce qu'ils définissent la viande qui était crachée et qu'est-ce qu'on a fait après de ces morceaux de viande?
En fait, pour lui, il le fait régulièrement. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Alors, il incise pour extraire, pour matérialiser, disons, le mal, pour l'extraire, les cas de sorcellerie. Il incise aussi pour la prévention, donc pour protéger. Donc, il y a des personnes qui ont un destin plutôt défavorable, néfaste, et il a des points d'incision bien précis où à l'inverse, là, il insère des charmes de protection donc sous la peau. Il fait ça dans les deux sens. Et l'incision, elle n'est pas spécifique à lui. Et effectivement, on retrouve dans d'autres sociétés ce procédé.
Je peux ajouter, moi j'ai observé chez beaucoup de devins guérisseurs à Madagascar des incisions de ce type, où moi les guérisseurs avec lesquels j'ai travaillé enlevaient ce qu'on appelle des cisques. Alors cisques, ça veut dire qu'on insère, donc là le terme est clair, et ils extraient des petits bouts de bois qui sont donc des actes sorcellaires. Donc ces bouts de bois sont des planches de transport mortuaire ou des morceaux de cercueil qui sont donc la matérialisation de l'attaque sorcellaire. Et donc pareil, il utilise le miroir pour situer ces petits bouts de bois. Et Par contre, l'incision, c'est à peine la première couche de la peau, hein. Entendons-nous bien, c'est pas... Enfin, dans les cas que j'ai observé, c'est absolument pas des ouvertures, quoi. Et par contre, après, dans les cas que j'ai observé, les bouts de bois qui sont extraits du corps sont toujours neutralisés parce que ça reste une puissance sorcellaire et donc c'est jeté au sud de la maison qui est le point opposé aux activités ancestrales et donc mise l'endroit où sont les toilettes, les ordures, etc.
Juste pour ajouter un mot, mais c'était en partie une question, je me demandais justement s'il incise vraiment et si quand vous dites il sort un morceau de viande, est-ce qu'il sort vraiment quelque chose ou est-ce qu'il avait lui-même quelque chose dans la bouche, parce que bon, ouais, d'accord, non mais non, on est d'accord, parce que je sais pas dans le public si quelqu'un peut vraiment croire, comme vous dites ça au premier niveau, on pourrait croire, hein.
C'est vrai, je l'ai dit comme on le voit.
Oui, voilà, d'accord. Mais il faut préciser, parce que c'est pas évident de voir cette lame de rasoir.
J'ai fait une petite lame de rasoir. Voilà,
elle est là, elle est prête.
Dès le départ, je me suis dit, ça y est.
Il tamponne.
C'est ça, parce qu'en fait, il y a des cas d'excision donc, que moi j'ai vu aussi, mais qui sont en fait une simulation d'excision.
Oui, c'est ça,
en fait, ils n'insistent pas vraiment. Et puis même quand il aspire, il fait semblant d'aspirer. Et quand il crache, en fait, il crache un corps ensanglanté qu'il avait dans le coin de la bouche. Donc il n'y a pas...
Il incise un petit peu la peau, mais c'est comme une petite coupure.
Voilà, mais en fait, il n'en extrait rien. Il n'y a pas la
place. Dans les cas, j'ai bien d'accord. En fait, l'aspiration est très bruyante, très théâtrale.
D'accord. C'est juste pour les gens qui ne connaissent pas, qui pourraient croire que, vu qu'on parle de chirurgien, il ne faut pas...
Oui, c'est ça.
Non, on ne va pas si loin, en fait. En fait, le plus important, je pense, c'est justement de matérialiser la source animale, donc de dire aux gens, ça y est, on l'a enlevé, on l'a recraché, c'est fini. Mais en fait, techniquement, il se passe rien. Une vraie cicatrice.
C'est comme une petite coupure.
Là, ça rejoint.
C'est hyper fin.
On est quand même souvent dans le symbolique, hein. On n'est pas dans la pratique d'une opération.
Ça rejoint les vomissements dont on a parlé ce matin.
Voilà,
en fait.
C'est vraiment très symbolique. Donc la mise en scène peut être très poussée, mais malgré tout, ça ne va pas très loin. Mmh. Voilà, une question, oui.
Juste rapidement sur ce point, ça me fait penser aux pratiques sur la chirurgie, sur les chirurgiens à Manu, qu'on trouve aux Philippines ou au Brésil aussi. Et sinon, j'avais une petite remarque, merci pour votre intervention. Je voulais juste questionner un peu l'origine du pouvoir de guérir qui est prêté à ce guérisseur. Et donc, vous expliquez bien comment ce pouvoir de guérir est associé au fait que ce guérisseur dispose d'un certain nombre de savoirs. Et est-ce que vous pourriez un peu revenir sur la forme de ces savoirs, parce qu'il y a des savoirs qui est en astrologie, la possession, la fabrication des chats, des savoirs sur les plantes. Donc si vous pouviez peut-être un peu présenter l'origine de ces savoirs, je voulais juste aussi savoir si ce guérisseur fait une référence aussi au don, à la disposition d'un don particulier.
Alors, dans le savoir thérapeutique et religieux, j'ai parlé effectivement de l'astrologie, qui se réfère au calendrier lunaire. Et c'est alors, il y a plusieurs spécialités. Donc, il est lui astrologue, c'est-à-dire qu'il a la connaissance des signes zodiacaux, des périodes fastes, néfastes, etc. Chaque individu, quand il naît, a un destin. Donc, il est capable d'établir les correspondances astrologiques, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Et il y a aussi la divination, donc de façon traditionnelle, c'est la divination par les graines. Donc, c'est le jeter de graines. Et qui correspond aux directions aussi zodiacales, donc au calendrier lunaire. Voilà. Donc c'est le savoir de lire par le jeté de graines. Voilà. Donc on les appelle les psychiques, donc c'est une spécialité aussi. Donc ils sont capables de prédire, d'expliquer, d'agir pour quelqu'un, de prendre la décision, telle date, il faut faire ça à telle date, etc., etc. Et donc, il y a le savoir des simples, donc des plantes, à connotation ou pas magico-religieuse, ça dépend. Et puis, il y a aussi donc, le savoir-faire de la possession, savoir entrer en transe, être possédé, etc. C'est quelque chose de maîtrisé et qui s'apprend. Voilà. Alors maintenant, pour le vocabulaire du don, Alors, pour mon terrain, il y a pas, je n'ai pas ce vocabulaire-là pour les devins guérisseurs que j'ai rencontrés, qui ne s'inscrivent pas dans le christianisme, en termes de don de Dieu, etc. Les explications, c'est un destin faste pour acquérir le statut et pouvoir l'assumer. Donc c'est une question de destin, et puis évidemment de réseau familial, qui transmet quoi, de proximité, qui dans la famille a été devin guérisseur, qui a un savoir qui veut bien transmettre, etc. Donc, c'est les deux explications.
Si ça vous suffit, on va arrêter parce qu'on se met en retard, mais on pourrait y revenir si on a de la main à la fin. Je vais inviter les deux autres intervenantes à venir s'installer. Yeah.